retirer de la poubelle.
Ça, de toute façon, le CPE avait dit hier, on fait déjà un très, très gros effort, puis on ne met que les couches à l'intérieur du bac.
Un CPE avec des couches jetables, y avez-vous pensé?
Ah, ben c'est parce que, je sais pas, lui, il y a des enfants pourtant, mais...
Ça a pas l'air qu'il s'en rappelle.
Quand je suis pas capable de trouver les priorités ou quand je sais pas trop quoi faire, c'est là que je commence à paniquer.
J'ai un extrême mal de tête, mal de ventre. Quand c'était à l'école, je voulais retourner chez moi. Je voulais être avec mes parents.
Je pleure, je me mets à avoir de la misère à respirer. J'ai l'impression que comme tout ça arrive comme vraiment vite.
Tu veux que je te dise une de mes peurs?
Ah ouais, ça te tente?
C'est du vide.
Vous venez d'entendre un extrait d'un documentaire de Claire Lamarche qui sera présenté ce soir à Télé-Québec, Génération d'anxieux. C'est un documentaire qui explore comment l'anxiété affecte particulièrement les jeunes. Et pour en discuter, on reçoit un neuropsychologue et conférencier, le docteur Benoît, là j'espère que je ne vais pas massacrer votre nom, là, Améringer. Bonjour docteur Améringer.
Oui, bonjour.
D'abord, parlez-nous un peu de l'anxiété. Là, on dit que c'est la maladie du siècle, la maladie dont on souffre le plus. Comment on peut expliquer ça?
Ben, sur le plan psy, effectivement, là, c'est une maladie. Je suis d'ailleurs content qu'on en parle parce que depuis plusieurs années, là, la médiatisation se fait autour du TDAH chez les enfants, alors que le TDAH, la prévalence est autour de 7%. Alors que l'anxiété, on est autour de 18% de diagnostic à l'adolescence. Là, de diagnostic donc, hein? Donc pas seulement des jeunes qui vivent de l'anxiété par période, mais là de jeunes qui ont un diagnostic qui est posé. Alors effectivement, c'est quelque chose qui est très présent en ce moment.
Mais là, expliquez-moi c'est quoi exactement l'anxiété, là? Parce qu'on entend beaucoup parler, là, mais j'ai de la misère à comprendre la portée de quoi on parle précisément. Là. Moi, c'est sûr que ce matin, là, je m'emmenais au bureau puis je pensais à ce que j'allais faire dans mon émission puis j'étais excité, peut-être même on pourrait dire anxieux, je sais pas. Mais c'est comment on fait pour savoir que on a de l'adrénaline puis que ça peut être positif puis que de l'anxiété, c'est un problème?
Ben, c'est ça. D'une part, on a ce qu'on pourrait appeler le stress ou même des fois la peur. Ouais. Le stress, c'est ce qui apparaît quand quelque chose en particulier, quelque chose de précis nous génère une activation. Là. Par exemple, justement, on a une émission à faire et puis là, on devient un peu plus stressé. À l'école, on a un examen qui s'en vient, donc c'est quelque chose de concret. On sait c'est quelle date, on sait c'est quoi l'examen. Puis on a un certain stress qui nous porte à se mobiliser pour étudier. Puis c'est bien parce que cette part-là de stress amène à mobiliser le corps, là, donc sortir de son sofa, puis se mettre en branle pour bien étudier ou pour bien préparer une émission de radio, par exemple. Okay. Quand on est dans l'anxiété, ça, c'est autre chose. C'est un petit peu la même émotion, là, la même tension, mais qui est vécue sans trop savoir c'est lié à quoi et qui est vécue de façon un petit peu permanente. C'est-à-dire que là, quand on a un examen, ben on a du contrôle. On sait que si on l'étudie, ça va bien aller. Ça fait baisser notre stress. Et une fois que l'examen est terminé, ben le stress s'en va. L'anxiété, c'est comme si il n'y a pas de moment où elle disparaît. Il n'y a pas une chose en particulier à quoi c'est lié et qui fait que lorsque cette chose-là est résolue, ben l'anxiété s'en va. C'est là de façon plus permanente. Et donc, ça installe le corps de façon un peu plus permanente en état là, de suractivation.
OK. On dit que les principales victimes, c'est des enfants, des adolescents. Pourquoi ils sont plus à risque? Puis c'est quel pourcentage des ados et des enfants qui sont à risque?
Ouais, donc, il y a comme deux sources là, qui peuvent amener un jeune à être anxieux. Il y a des jeunes qui, de naissance, ont cette personnalité-là anxieuse. Quand on a des enfants, là, on voit assez vite qu'ils ont des traits de personnalité. Il y en a qui sont un peu plus extrovertis, il y en a qui sont un peu plus timides, il y en a qui sont un peu plus opposants, par exemple. Alors, un des traits de personnalité serait ce trait-là d'anxiété qui porterait certains jeunes à avoir un sol plus fertile, si on veut, pour réagir au stress de la vie. D'autre part, ben il y a les jeunes qui vont vivre dans un milieu, disons, psychosocial qui peut installer des difficultés et générer des stress. Alors, des événements, par exemple, comme des déménagements fréquents, une séparation des parents, des difficultés scolaires, de l'intimidation à l'école. Alors, tout ce qui installe, on dit, là, de l'insécurité, de la nouveauté et une menace sur le jeune peut générer de l'anxiété.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y en a plus aujourd'hui qu'il y en avait à notre époque quand nous autres on était ces bancs d'école?
On a cette impression-là, hein? Puis là, il y a plein d'hypothèses. On a peut-être l'impression aujourd'hui que il y a une certaine surprotection des jeunes. On veut comme éliminer tout danger de leur environnement. Dans le cours d'école, on veut plus qu'ils montent sur la butte de neige, on veut plus qu'ils se lancent de neige, pourquoi qu'ils se blessent. Ils vont faire du vélo, là, sont surpadés, là. Ils ont des casques, des protections. On veut plus que notre enfant se graffine ou se fasse mal. Et donc on élimine un petit peu tous les risques. On tente de surprotéger, ce qui fait que le jeune n'a jamais eu à affronter les difficultés, à affronter les situations, puis à surmonter les situations plus difficiles. Donc, quand il arrive à l'adolescence et que là, ben, il est confronté à des situations de vie difficiles, c'est comme la première fois, il n'est pas outillé. Ce qui était peut-être différent dans les époques passées.
On apprenait nous autres essais-erreurs pas mal plus. Il y a des gens aussi qui m'écrivent présentement au 25226 puis ils me disent là le fait que les parents les mettent en garderie en très bas âge, qui ont des gardes partagées parce qu'il y a des divorces qui arrivent plus fréquemment. Est-ce que ça, c'est des facteurs qui peuvent effectivement aider l'anxiété? Tantôt, vous avez dit quand il bouge beaucoup, là, je pense que c'est sûr que quand en bas âge, on envoie notre enfant d'une garderie, est-ce que c'est un exemple d'un comportement qui pourrait provoquer davantage d'anxiété?
Ben là, ce qu'on parle, quand on parle de ça, on parle de l'attachement. Et une des bases de la sécurité d'un enfant, c'est l'attachement. Alors, ce qu'on veut s'assurer, c'est que l'enfant est attaché à ses parents, qu'il a un lien solide et confiant avec ses parents. Alors, le fait de le mettre en garderie, pas nécessairement, mais il faut s'assurer qu'il y a un temps suffisant dans la semaine et dans la journée pour que le parent puisse avoir du temps de qualité avec son enfant. Pas juste des moments où on fait à manger, on fait la vaisselle, on fait le lavage, puis un peu plus tard, là, chez les jeunes, on fait les devoirs et tout ça, et puis il s'en va se coucher. Alors, il y a comme une perte de temps de qualité qui permet de construire ce lien-là et de sécuriser l'enfant. Alors, pour avoir un attachement solide, on veut du temps de qualité, du temps investi avec l'enfant. Et ça, oui, là, quand on a un bon attachement en bas âge, ça apaise l'anxiété dans l'avenir.
Est-ce que c'est contagieux, l'anxiété, dans le sens où est-ce que les parents peuvent le transmettre à leurs enfants?
Ben oui, tout à fait, tout à fait. L'anxiété, là, un enfant, c'est comme une éponge face à l'anxiété de ses parents. Un parent qui vit sous du stress ou qui vit lui-même avec un trouble anxieux, l'enfant le ressent. Le vit lui-même, l'absorbe, et puis ça se communique très, très bien, oui, d'un parent à un enfant.
Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, ils naissent pratiquement avec un cellulaire ou avec un iPad ou avec un ordinateur dans les mains. Le fait d'être hyper connecté dès un très jeune âge, est-ce que ça peut aussi avoir un impact sur leur anxiété?
Ben, l'impact qu'on pense que ça a, c'est que ça installe une solitude chez les jeunes. Une solitude, ils sont plus vraiment entourés de personnes réelles autour d'eux, ou beaucoup moins. Ils sont beaucoup moins dans l'interaction quand ils sont entourés, parce qu'ils sont les yeux sur le cellulaire plutôt qu'en train d'interagir autour d'eux. Ou à la maison, plutôt qu'être dans leur cour en train de jouer dans un but de hockey avec les petits voisins, ben ils sont dans le sous-sol sur des jeux vidéo. Et ça, ben, bien qu'il puisse y avoir des amis virtuels, c'est pas du réel support. Quand l'enfant vit des difficultés, c'est pas un réel support autour de lui. Et c'est aussi un monde un peu parallèle, là, si on s'en va du côté des jeux vidéo, là, pas seulement du cellulaire, mais dans les jeux vidéo, c'est que c'est un monde parallèle dans lequel l'enfant peut un peu fuir, se construire un nouveau, un bonhomme qui va progresser dans ce monde-là avec des caractéristiques, des forces, mais qui est plus lui. Et plutôt que de vivre dans le monde réel où il doit affronter des difficultés réelles et vivre des succès à affronter ces difficultés-là, ben il le fait dans un monde virtuel qui n'est pas le vrai. Et donc, quand il se retrouve face aux réelles difficultés de la vie, ben il n'est pas outillé pour le faire.
On est à une époque où le cannabis vient d'être légalisé. Est-ce que des papiers... J'ai déjà lu ça, mais je ne sais pas si vous corroborez ces recherches-là. Est-ce que c'est vrai qu'un jeune qui souffre d'anxiété a davantage de risques de te tourner vers le cannabis?
Ouais, deux réponses à ça. Il y a certains jeunes, oui, qui vont verser dans l'automédicamentation. Là, le cannabis vient en fait apaiser leur anxiété et calmer cette réaction-là. Ça les fait sentir mieux et bien. Et là, ben, puisqu'il y a un sentiment de bien-être associé à cette consommation-là, là, ça apaise la tension à l'intérieur. Ben, il y a un plus grand risque de dépendance. Par contre, il y a plusieurs jeunes anxieux. Le profil typique du jeune anxieux, c'est un jeune qui suit les règles. Il veut pas être pris en défaut.
Non, mais c'est légal maintenant, là, il va suivre les règles. Si, même s'il fume son joint tous les jours, il a le droit.
C'est vrai qu'il a le droit, mais il y a encore une crainte autour de ça, de ce que ça peut faire. Et on dit, en fait, il y a beaucoup d'avertissements. Nous, les neuropsychologues, on dit que jusqu'à 25 ans, il peut avoir un impact significatif sur le développement du cerveau s'il y a une surconsommation. Donc, il faut quand même que ce message-là soit aussi véhiculé. Puis, voilà.
Est-ce que le meilleur remède ou le meilleur médicament, ça reste pas l'activité sportive? Quand un jeune est anxieux, s'il bouge, est-ce que ça va pas apaiser son anxiété puis apporter justement un peu plus de joie de vivre?
Ben, c'est un remède à bien des choses, puis j'y adhère beaucoup. C'est un remède autant à, des fois à sédentarité, à l'obésité, c'est un remède même au TDAH. Et lié à l'anxiété, tout à fait, c'est que ça fait ressortir une tension dans le sport, dans l'activité physique. Oui, la tension peut le stress peut ressortir dans ça. Et qui plus est, là, les enfants vont se retrouver en interaction sociale avec d'autres jeunes dans un milieu. Si on est dans une équipe de basket, dans une équipe de hockey, ben on a des coéquipiers avec qui on fait des liens. On vit des succès, donc on se trouve bon. D'ailleurs, une des recettes là, pour affronter l'anxiété, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. Là, c'est ça ce que c'est se sentir bon dans une situation donnée. Quand on se sent bon dans une situation, on ne vit pas de stress dans cette situation-là. Donc, si on pense qu'on est bon au hockey, si on pense qu'on est bon pour faire un exposé oral, le stress est beaucoup moindre que si on pense qu'on n'est pas bon pour le faire. Alors, l'activité sportive permet justement aux jeunes de développer des capacités où il va se trouver bon et donc de baisser son stress.
Parce que je vous dis ça parce que j'ai peur qu'on commence à traiter l'anxiété chez nos enfants avec des médicaments puis que ça devienne une nouvelle manne pour l'industrie pharmaceutique, un peu comme on le voit avec le TDAH. Moi, c'est ma crainte par rapport à l'anxiété. C'est bien beau d'en parler, mais si c'est pour développer une nouvelle branche puis une nouvelle manne pour l'industrie pharmaceutique, plutôt que de tourner les enfants pour faire du sport, pas sûr qu'on va progresser comme société, là.
Ben, c'est une bonne crainte, effectivement. Et contrairement au TDAH, en tout cas, dans l'état des connaissances actuelles, là, il y a quand même beaucoup plus d'interventions qui fonctionnent pour aider l'anxiété, autre que la médication. Que ce soit, bon, par exemple, on peut penser à des suivis en psycho où on va outiller le jeune, on va lui apprendre à gérer le stress lorsqu'il monte. Il y a des bonnes techniques là, qui peuvent être enseignées en psychologie de relaxation, de respiration, de gestion du stress, de méditation. On peut amener les parents également à coacher les parents pour gérer le stress de leur jeune au moment où est-ce qu'il le vit. Et le stress, là, il n'y a pas 200 secrets là, pour ça. Là, ce qu'il faut faire, c'est le confronter. L'anxiété, il faut la confronter. Il faut la confronter à petits pas, mais il faut la confronter. Il faut à tout prix éviter l'évitement. Donc, un enfant qui est anxieux et qui ne voudra pas, par exemple, prendre l'autobus pour aller à l'école parce qu'il a peur de prendre l'autobus, ça le stresse, ben si on évite de prendre l'autobus puis on dit « OK, je vais te reconduire », ben on entretient. Ouais. Okay. Non, on veut le confronter.
Très intéressant. Ceux qui en veulent plus, c'est pas compliqué. Ce soir, dès 20h, documentaire de Claire Lamarche, Génération d'anxieux, qui va explorer justement comment l'anxiété affecte particulièrement les jeunes. Ça sera à Télé-Québec. Puis il y aura aussi, le 25 septembre, donc la semaine prochaine, un deuxième documentaire sur le même sujet, Prisonnier de l'anxiété, qui s'attarde lui plutôt à démystifier l'anxiété. Docteur Benoît Ameringer, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Ben, merci à vous.
Au revoir. Marc, c'est un sujet qui t'interpelle.
Au fond,
l'anxiété.
Depuis longtemps. Puis moi, tu sais que j'ai une théorie pour ça que je veux te partager. Peut-être que je te l'ai déjà dit, mais j'ai vraiment une idée claire pourquoi tout ça existe. C'est que la vitesse du changement a dépassé la capacité d'adaptation.
C'est-à-dire?
Le Moyen Âge, c'est 500 à 1500. C'est, okay? Oui. C'est les années 500 à 1500. On prétend qu'en Europe, pendant le Moyen Âge, donc pendant 1000 ans, une personne accumulait des connaissances l'équivalent de l'édition du dimanche du New York Times dans toute sa vie.
Okay? Non, il n'était pas exposé à grand-chose. Là.
Écoute, il faisait pousser des carottes, il savait comment faire en sorte que ses enfants se fassent pas manger par des loups. C'est tout, là. Ça fait qu'une vie, pendant 1000 ans, la vie a tellement été la même. Il n'y a eu aucune avancée de rien pendant ce temps-là, tu es au courant.
Les autres, d'une génération à l'autre, ça a explosé.
Exact. Depuis particulièrement une centaine d'années, écoute, quand l'automobile est arrivé, là, ça a fait une révolution épouvantable. Les banlieues se sont créées parce que tu pouvais te déplacer. Mais ça s'est fait sur des dizaines d'années. Pense à tout ce qui s'est passé depuis l'avènement d'Internet, des applications, comme à l'information, les fake news. C'est bourré de changements que trois mois plus tard, on n'a plus la même vie qu'on avait il y a trois mois.
Je parlais à une amie un matin. Là, non, mais je veux juste te donner un exemple. Elle me disait, regarde, elle me parlait de ses enfants, comment ils ont tout en 30 secondes. Elle dit, nous autres, Éric, on partait, puis ça prenait une heure. On allait à la bibliothèque, puis on fouillait dans des encyclopédies pour avoir cette information-là. C'était des heures de travail pour trouver une information qui, aujourd'hui, est accessible en quelques secondes au bout de tes doigts.
Mais ça, c'est le côté rigolo, mais il y a tout le côté rigolo, négatif.
Ben c'est ça, ça va avec tout. Il y a des positifs et du négatif.
Et quand tantôt vous parliez avec le docteur Amerenger, t'as dit une très bonne question quand t'as dit, ça se peut-tu que les parents transmettent une partie? Mais c'est sûr! Parce que les parents sont aux prises avec exactement les mêmes changements, c'est-à-dire ceux qui voient de leurs enfants, ceux qui voient au travail, ceux qui voient partout. Donc, cette roue-là, elle tourne. C'est pas juste les jeunes qui tout à coup sont dans un environnement auquel ils n'ont pas le temps de s'adapter, c'est tout le monde, les parents inclus. Ça fait qu'on est dans cette phase-là qui, j'ai bien peur, ne va pas ralentir plus. Désolé de...
Puis, tu sais comment j'aime pas le changement, là?
Non.
Hier, je m'en vais au guichet automatique chez Desjardins, je vais pas le nommer, là. Ils ont changé machine.
Oui.
Et là, il y a toutes sortes de nouveaux affaires, puis c'est plus technologique. Écoute, j'ai capoté. Pour retirer, là, 100 piastres, là... Je sortais de là, je stressais. Je suis sûr que mes palpitations cardiaques étaient plus vite.
Oui.
Parce que j'étais habitué chez Desjardins depuis des années que je pèse ces mêmes pitons. Je pense que j'aurais pu le faire les yeux fermés tellement j'étais habitué d'aller au guichet puis de composer mon code. Puis là, tout n'est pas pareil.
Ils sont rendus tactiles.
Une partie tactile, une partie clavier. C'est pas la même grosseur, c'est pas la même place, c'est pas écrit de la même façon. C'est niaiseux, là, mais ça l'a augmenté mon stress quand j'étais là. Puis là, j'avais la file en arrière, j'avais peur de me tromper puis d'avoir l'air d'un câble.
Ça arrête jamais. C'est tout le temps, ça change. Tout change.
Fait que je sortais de là, puis j'avais monté mon niveau de stress juste parce que j'ai été retiré 100 piastres dans un guichet.